Bonjour, c'est Radio Libertaire, Symbiose, l'émission sur le libre en général, la culture du libre. Aujourd'hui, nous allons parler d'In Libro Veritas. Avant ça, je vais aborder d'abord une question financière pour Radio Libertaire. Je vous rappelle que nous avons besoin de sous, donc je vous invite à aller sur le site de Radio Libertaire pour nous soutenir. Donc nous recevons aujourd'hui Denis Nerings et Mathieu Pasquini, qui sont respectivement auteurs et créateurs d'un site et d'un service entier d'édition dans le libre, et qui font en fait sur un site sur lequel on peut éditer des textes et publier, enfin même éditer des livres. Enfin là je suis en train de me perdre un petit peu, donc je vais demander à Mathieu Pasquini d'expliquer qu'est-ce qu'In Libro Veritas.
Eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire une synthèse assez rapide d'In Libro Veritas. Alors voilà, In Libro Veritas, c'est évidemment d'abord un site web sur lequel on peut venir écrire et lire gratuitement et librement des œuvres littéraires de toutes sortes. Alors, quand je dis lire, c'est la possibilité donnée à tous, sans aucune contrainte autre que d'avoir un navigateur et d'avoir Internet, la possibilité de lire en ligne complètement et vraiment complètement l'œuvre de A à Z, totalement librement, et il y a aujourd'hui à peu près 5000 œuvres. Et pour les auteurs, c'est la possibilité de venir écrire, là encore, gratuitement, complètement et librement, la totalité de ces œuvres. Donc c'est le principe même d'In Libro Veritas, c'est l'accès à l'écriture et à la lecture sur Internet. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 5000 œuvres qui sont réparties environ à 40% d'œuvres du domaine public et 60% d'œuvres d'auteurs In Libro Veritas comme Denis ici présent. Voilà, et rapidement, le site existe officiellement depuis 18 mois et officieusement quasiment 2 ans. Il y a eu toute la phase de debug.
Très bien.
Très concrètement, Denis, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour publier un texte sur In Libro Veritas ?
Bien sûr, bonjour tout le monde, bonjour Luc, bonjour Mathieu. En fait, le principe est très simple. On commence par écrire un texte, c'est la base de tout. Ensuite, on le met en ligne sur le site In Libro Veritas pour qu'il puisse être lu gratuitement par un ensemble de lecteurs, ensemble qui fait que les mots prennent leur richesse. Et donc le principe est de tout simplement, il n'y a pas plus simple, c'est de donner la possibilité aux gens de mettre son texte personnel à la lecture de tout le monde.
D'accord. Et très concrètement, c'est compliqué. Il faut savoir faire de la mise en page ou éditer des documents compliqués. Comment on passe de son traitement de texte à une édition en ligne ?
Alors très concrètement, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a une interface qui devient de plus en plus conviviale sur la version 2 de In Libro Veritas qui vient de sortir maintenant. Ce qui veut dire que l'on peut, mais là je laisserai Mathieu donner les renseignements techniques plus complets, on peut soit directement envoyer son fichier en format OpenOffice, il est repris sans mise en page, donc il ne faut pas être spécialiste de mise en page ni rien de tout ça, ou envoyer son texte page par page, par transfert de fichier, tout simplement. Mais je vais laisser Mathieu donner des explications techniques plus...
Pour publier une œuvre sur In Libro Veritas, en fait, il y a globalement effectivement deux possibilités maintenant, puisqu'avec la sortie de la version 2, on a effectivement la possibilité d'uploader un fichier ODT, qui est donc le fichier Open Text Document, qui est le standard des documents textes qui sont basés sur des standards ouverts, reconnus et utilisables par tous. Donc ça, c'est le premier point. Comment on crée ce fichier-là ? Ben, on écrit le texte via OpenOffice ou un autre logiciel capable de faire un fichier comme cela. Et on le transfère tout simplement sur le site. Et le site a ce qu'on appelle un moteur, c'est-à-dire une partie de logiciel qui transforme le fichier en un texte lisible en ligne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est une approche qui est plutôt comme un forum où on vient remplir le texte à l'intérieur d'un champ prévu à cet effet, puis ensuite on valide. Donc l'idéal, c'est d'abord d'écrire avec OpenOffice pour pouvoir corriger, pour pouvoir bien lire le texte, etc. Puis ensuite venir faire tout simplement un copier-coller. Et après, on reformate un petit peu le texte pour qu'il soit proprement mis en ligne. Et voilà. Mais c'est relativement simple. Et puis de toute façon, on prend le temps d'écrire. C'est pas une course contre la montre. L'objectif, c'est pas de battre le record du monde du nombre d'œuvres mises en ligne en une journée. Voilà. Donc il y a ces deux grandes approches-là. Puis de toute façon, on est à l'écoute des auteurs et de leurs besoins et des possibilités techniques. Et on essaye de les mettre en place sur le site.
D'accord. Et ce qu'on peut mettre en ligne, c'est du texte brut. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en ligne, de faire des tableaux ou des trucs comme ça ?
Alors, aujourd'hui, on peut, de manière absolue, on peut mettre du texte avec un petit peu de formatage italique, retrait, tabulation, des listes à puces ou un numéro de l'italique, centré, mettre à gauche, justifié, etc. Donc, le plus simple de la typo. On est en ce moment sur la version 2 en pleine phase de débugage public, on va dire, sur la possibilité via justement un fichier OpenOffice de mettre des images et un formatage un petit peu plus compliqué. Mais le web étant assez ancien, il n'est pas vraiment fait pour faire de la mise en page vraiment complexe et riche en ligne. Donc on essaye de faire au mieux, mais on peut déjà faire beaucoup de choses qui est normalement suffisant pour faire de la littérature. En ce qui concerne les tableaux et des choses plus compliquées comme des formules de mathématiques, par exemple, on travaille sur une solution qui verra le jour dans quelques mois, qui permettra de mettre en place du site richement complexe avec formules mathématiques, formules scientifiques, tabulation, retraites, tableaux, notes de pied de page, renvoi d'index, etc., glossaire. Bon, c'est le cran d'après. Ça va demander pas mal de développement. Voilà, j'en parlerai pas plus, mais je donne aussi le futur. Parce qu'après tout, on est tous orientés vers le futur.
Très bien. Donc, outre l'édition en ligne, alors après ça, comment on diffuse donc on peut, comment dire, lire les œuvres en ligne.
Ah oui.
On peut récupérer des PDF.
Oui, alors, ce qu'il faut bien savoir sur In Libro Veritas, c'est que la seule contrainte qui est demandée aux auteurs, indépendamment du fait qu'évidemment, il faut écrire
en bon français et sans faute d'orthographe, la seule contrainte qui est demandée aux auteurs, c'est que l'œuvre soit complètement accessible en ligne pour les lecteurs. Hein, il n'est pas question de mettre 50% du texte avec un petit lien qui dit la suite sur mon site web. L'œuvre doit être complète, elle doit être à 100% sur le site. D'accord ? Mmh. À partir de là, il y a un certain nombre d'outils qui sont donnés aux auteurs, et notamment une possibilité qui leur a donné de choisir les droits et de voir comment les lecteurs sur les œuvres. Et ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est les fameuses licences qui sont très connues dans le monde du logiciel, un petit peu moins dans le monde de l'art, qui sont des licences dites libres ou copyleft ou apparentées. J'ai cité donc là les Creative Commons, la licence art libre et puis des licences type GFDL qui ressemblent au logiciel. Et avec ça, les auteurs décident de ce que les gens ont droit de faire de leurs œuvres. Alors, ils peuvent décider ou non que le PDF soit téléchargeable. Ils peuvent décider ou non que le PDF soit payant. Ils peuvent décider ou non d'autoriser à ce que l'œuvre soit compilée dans un livre papier dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent sur les autorisations qu'ils vont donner sur l'utilisation de leurs œuvres. La seule qu'ils peuvent pas, sur laquelle ils peuvent pas déroger, c'est la possibilité de lire d'être lu complètement en ligne par les lecteurs. Voilà. C'est extrêmement simple, c'est quelques boutons à cliquer, enfin c'est très facile, dans l'interface on choisit puis on peut passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté.
Donc comme tu disais, on peut être mis dans un livre, c'est-à-dire qu'il y a un service d'impression.
Voilà, alors l'une des autres grosses originalités à mon avis d'InLibro Veritas, c'est que on peut compiler à l'intérieur d'un livre des œuvres qui se trouvent sur le site, dont les auteurs ont autorisé la mise dans un livre. Aujourd'hui, on peut parfaitement prendre des MP3 et les compiler dans un baladeur numérique, des fichiers Ogvorbis, puisqu'on parle du livre. Sur InLibro Veritas, on peut choisir dans la bibliothèque des œuvres et les compiler à l'intérieur d'un livre, qui est l'équivalent finalement du baladeur, et de créer soi-même son livre à la carte en ligne. Ensuite, une fois qu'on a décidé des œuvres qui seront dans ce livre, on choisit le titre de l'œuvre, du livre, le nom de l'auteur, finalement on peut s'amuser à le changer, on peut choisir l'image sur la première de couverture, on peut choisir une image sur le quatrième de couverture, un petit texte sur le quatrième de couverture pour présenter un peu le livre si on veut, on peut aussi faire une dédicace sur la première page, on peut mettre à ma grand-mère chérie, à ma femme bien-aimée, enfin, on peut mettre à peu près ce qu'on veut, dans l'intervalle de 1000 caractères. Et ensuite, on clique, et puis effectivement, le livre, il est imprimé dans les quantités qui sont demandées par le lecteur, par l'acheteur, et la quantité minimum est de 1. Donc c'est vraiment, on peut créer son livre unique à la carte, qui est donc un vrai livre, hein, puisque c'est un vrai livre imprimé en dos carré collé, avec une belle couverture en couleur, sur du beau papier, tout ça. Et on devient à la fois son propre éditeur, son propre auteur, on peut acheter ses propres œuvres, compiler avec les œuvres des copains, on peut, comme ça, on peut faire ça. Et quand on est acheté, hein, quand une personne a compilé votre œuvre au sein d'un livre, ou seul ou avec d'autres auteurs, vous touchez des royalties, puisque 10% du prix de vente du livre est reversé aux auteurs au prorata du nombre de pages qui sont à l'intérieur. Et ce que je tiens aussi à souligner qu'on met pas assez en avant, finalement, je me rends compte sur InLibro Veritas, c'est que les œuvres du domaine public, on va prendre par exemple Victor Hugo, où une personne achèterait une œuvre de Victor Hugo, donc on va dire, mais qu'est-ce que deviennent finalement les royalties de Victor Hugo, puisqu'il est dans le domaine public, je les garde pas pour moi, ils sont mis dans un pot commun. Et ce pot commun, ensuite, il est partagé entre les auteurs qui ont vendu. Alors, plus on a vendu d'œuvres sur InLibro Veritas, plus vous touchez une part importante de ce pot commun qui a été fait par les auteurs du domaine public. Donc, même Molière peut aider, ou Victor Hugo un petit peu, la bourse des auteurs.
Tu n'es pas un capitaliste affirmé.
Non, pas complètement, non.
D'accord. Concrètement, comment tu fais pour produire des bouquins à l'unité ?
Alors, on a mis en place avec un imprimeur un process technique et industriel assez particulier qu'on a mis du temps à développer, qui nous permet justement de réduire un maximum les coûts et qui permet aujourd'hui de produire un livre qui est en minimum 40 pages jusqu'à 600 pages, qui coûte entre 15 et 30 euros à la vente, enfin un prix public d'achat, donc des prix qui restent cohérents. Et par contre, évidemment, il a fallu développer un certain nombre de choses, notamment des outils de génération automatique de PDF pour l'imprimeur. On génère la couve en automatique sur le serveur du site. Enfin, il y a énormément de process qui sont automatisés. L'imprimeur a évidemment joué le jeu du le jeu de l'expérimentation, de la recherche et développement, parce qu'au début, bon, ça lui coûtait plus cher, mais maintenant, ça roule plutôt pas mal, et on arrive à optimiser les coûts, à centraliser les campagnes d'impression, etc. Mais globalement, les gens achètent qu'un livre, donc il a vraiment fallu se battre pour pouvoir produire un livre, mettons 20 euros, sur lequel l'imprimeur puisse gagner sa vie, l'auteur aussi, et puis moi aussi. Donc c'est une démarche aussi industrielle, pragmatique, et voilà, il a fallu développer, réduire les coûts. On a beaucoup travaillé sur la génération du PDF, sur une automatisation de la mise en production, etc.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait vivre, Inlibro Veritas ? Est-ce que ça te nourrit ?
Au jour d'aujourd'hui, Inlibro Veritas ne me nourrit pas à 100%, mais il me nourrit un peu. Et compte tenu de la nouveauté du process, pour être très pragmatique, pour utiliser un langage un peu capitaliste, si on regarde comptablement, uniquement Inlibro Veritas, c'est largement rentable. Là, il n'y a absolument aucun souci. Le tout est basé sur le volume de livres qui sont vendus. Faut dire les choses comme elles sont. Mais d'un premier abord, aujourd'hui, l'objectif est... J'ai pas envie de devenir l'homme le plus riche du cimetière. De toute manière, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est de donner une plateforme, un outil, enfin quelque chose pour les auteurs avec laquelle ils se sentent bien, avec laquelle ils n'ont pas de complexe, et avec lesquels ils pourront avoir un bouquin, compiler leurs œuvres dans un seul bouquin, partager un même bouquin avec les œuvres des copains, etc., etc. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est la convivialité, l'échange entre les auteurs, entre les lecteurs et les auteurs, la possibilité donnée aux auteurs d'être un peu aidés par les lecteurs pour corriger les fautes, etc. Mais Denis en parlera mieux que moi tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui est important. Et en plus, ce service qui est unique au monde, qui permet de faire plein de choses. Et voilà. Mais j'espère qu'un jour, j'en vivrai. Pourquoi pas ? Ça me permettra d'avoir toute mon énergie, toute mon attention portée sur le site pour donner un outil encore plus performant pour les auteurs, les lecteurs et les œuvres. Parce que finalement, on travaille pour que l'œuvre perdure. C'est aussi l'objectif du site. Et une petite précision, j'en parle tout de suite. L'objectif du site est aussi de donner accès à la culture aux plus démunis. Puisque l'accès est entièrement gratuit, est entièrement libre. Il est maintenant la Inlibro Veritas version 2 est entièrement respectueuse des standards du web. On a fait un énorme travail là-dessus. Ça a été des mois et des mois. D'ailleurs, je passe un petit coucou aux développeurs. Wicked, il va se reconnaître parce qu'il a fait un travail absolument incroyable sur le site et je peux pas passer ici sans lui mettre un grand coup de chapeau. Compte tenu des heures qu'il a passées sur le site. Donc, merci à toi. Et grâce à lui, le site, il peut être navigable par les aveugles, par les gens qui sont handicapés, qui n'ont pas de main, qui naviguent avec des souris aux pieds. Enfin, bon, toutes ces choses-là, tous les gens qui sont oubliés du web, un peu, je trouve. Et ben aujourd'hui, ils ont accès à 5000 œuvres de manière la plus efficace possible puisqu'on a respecté les standards. Et ça, j'y tiens. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour moi sur Inlibro Veritas. C'est vraiment un accès universel, démocratique aux œuvres. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà.
D'accord. Très bien. Mais c'est Symbiose, alors on peut aller un petit peu dans la semoule, on a remis le premier morceau, on se rattrape immédiatement.
Johnny Rolling in the mud, the river Tiber, five men with much
Radio Libertaire, c'est Symbiose de retour. Nous allons maintenant nous adresser à Denis pour qu'il nous explique comment il en est venu à écrire sur In Libro Veritas en termes de motivation et ce genre de choses.
Eh bien voilà, en fait, l'écriture chez moi, c'est un long trajet. Ce trajet commence à l'adolescence, vers 12-13 ans, où j'ai commencé à écrire des textes de fiction. Et puis vers 18 ans, 19 ans, comme j'ai appris dans le même temps à jouer de la guitare, eh bien forcément j'ai écrit des chansons, puis j'ai composé de la musique. Ce n'est pas de la littérature, mais beaucoup de poèmes à cette époque-là. Et puis la vie m'a conduit, suite à plusieurs maladies, à profiter d'une période de repos très importante depuis 1998. Et depuis 1998, je peux me laisser libre cours à mon imagination et, disons, occuper la majeure partie de mon temps à écrire, à sortir de ma tête tout ce que j'ai. Et j'ai de quoi écrire pour des générations entières. Rassurez-vous, je ne suis jamais en panne, j'ai une imagination débordante et mes lecteurs le savent. Comment je suis arrivé sur In Libro Veritas? Je publiais sur mon site web personnel, et j'ai publié gratuitement aussi sur un autre site littéraire qui m'a, de fil en aiguille, amené sur In Libro Veritas, où j'ai fait la connaissance du système des licences libres dont j'ignorais tout de A à Z. Le concept des licences libres, Creative Commons et Art Libre, m'a tout de suite plu, parce que c'est un concept de partage et de littérature équitable, dont je suis évidemment très partisan, même farouche partisan. Et j'ai dès lors commencé en 2005 à publier La Licorne de Fiel, le premier roman que j'ai publié sur In Libro Veritas. Et puis bon, tous les autres sont venus. Puis de fil en aiguille, Mathieu Pasquini, le gérant fondateur de In Libro Veritas, m'a repéré. Je lui ai plu, mes textes lui ont plu, mes mots lui ont plu. Il m'a proposé une édition à compte d'éditeur que j'ai bien évidemment accepté avec joie et grande humilité aussi. Et voilà, je produis, je ponds.
Ouais, ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vient de dire Denis, c'est qu'effectivement, In Libro Veritas a pour vocation de ne pas être simplement un site sur lequel on vient écrire, et advienne que pourra des textes où il y a aussi une démarche, enfin c'est comme ça que je vois les choses, il y a aussi une démarche de repérage ou de c'est des possibilités comme ça d'essayer de trouver des perles au milieu de tous ces écrits, et c'est un outil qui permet aux auteurs de se mettre en avant. Et voilà, c'est le cas de Denis qui est venu écrire sur le site, et j'ai effectivement détecté chez lui une façon d'écrire qui me plaît bien. Et là, c'est vraiment la subjectivité de l'éditeur qui parle, puisque finalement, c'est les tripes qui décident. Et j'ai dit non, là, c'est vraiment super bien. Il faut continuer à aider la démarche de ce personnage. Et donc, j'en ai rentré en contact et voilà, ça a permis d'éditer le premier bouquin et les autres qui suivront. Et puis il y a eu évidemment d'autres auteurs qui ont été découverts comme ça sur In Libro Veritas. Hein,
quand tu dis édité, quelle différence entre cette édition et la possibilité pour n'importe qui d'aller mettre son texte?
Alors, quand tu es sur In Libro Veritas, tu n'as de visibilité qu'au travers du web, hein, et les livres ne sont que des livres uniques, si je puis dire. Quand je dis que j'édite, on rentre plus dans un processus qui est traditionnel de l'édition, c'est-à-dire qu'on va faire des livres en une quantité plus importante, sur lequel il va y avoir un numéro d'ISBN, il va y avoir une couverture faite par un professionnel, on va donner au livre toute la possibilité que fournit l'édition traditionnelle, avec la possibilité d'être acheté sur Amazon, dans les librairies, etc. Si tu veux, il y a cette possibilité là qui a évidemment pas sur, enfin pour l'instant, sur une Libro Veritas finalement. Et puis quelque part, il faut aussi cette espèce d'étoile. Tu dis bon, je vais écrire sur une Libro Veritas, mais c'est le rêve de tous les auteurs. Moi, le premier, c'est dire, voilà, j'écris, puis il y a un auteur qui va me repérer, qui va me mettre en avant. Et il faut aussi cette espèce d'étoile, cette espèce de motivation, d'envie. Puis moi, j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire jouer ma subjectivité et de dire, ça, j'aime, et de le revendiquer, quoi. Mmh. Et la seule revendication que l'éditeur a de dire, ça, j'aime bien et je veux que ça soit connu de tous, c'est de faire cette édition un petit peu plus traditionnelle. Et puis, c'est vraiment très intéressant, mais on peut aussi imaginer qu'un autre éditeur que moi puisse se servir des Libro Veritas pour aller chercher un talent qui lui aura plu. Parce que moi, c'est pas que ça m'aura pas plu, mais ça rentre pas dans ma façon d'aimer les textes, où je suis passé à côté, où j'ai pas su voir, etc. Qu'un autre éditeur pourra voir. Il faut pas le négliger. Et j'invite tous les éditeurs de France et de Navarre et d'ailleurs à venir sur une Libro Veritas pour venir voir les talents qu'il peut y avoir. Et il y en a. Je les ferai fort de les citer tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des talents, des gens, des hommes et des femmes qui mériteraient d'être édités de manière plus traditionnelle ou en tout état de cause d'être vraiment mis en avant par quelqu'un qui l'aura décidé. Et je crois que c'est ça qui est important. Et ça tirera tout le monde vers le haut. Ça tirera tout le monde vers la volonté de bien écrire et de faire plaisir au lecteur, puisqu'il faudra inconsciemment peut-être faire plaisir à un éditeur, peut-être. Et ça donnera de la qualité, du crédit au site, donc de la qualité et du crédit aux auteurs. Et finalement, cette possibilité, c'est bénéfique pour absolument tout le monde. Tout le monde a y gagné. Et on va prendre un autre exemple. J'ai créé une collection qui s'appelle Gauche d'auteur. On peut y mettre tout ce qu'on veut, c'est ça qui est bien, donc gauche d'auteur, hein, tout y est, enfin, j'espère. Et donc l'objectif de cette collection-là, c'est de mettre justement en avant des auteurs qui sont sur une Libro Veritas et qui ont pris la décision de publier leurs œuvres sous des licences qui sont vraiment, vraiment libres, c'est-à-dire la licence art libre, une Creative Commons by, c'est-à-dire citer l'auteur, une Creative Commons by SA, c'est-à-dire citer l'auteur pour le by, et le SA, c'est redistribuer l'œuvre sous la même licence. La licence, bon, c'est plus anecdotique peut-être, GNU GPL, qui est la licence historique, on va dire, pour le logiciel libre, et la licence documentaire du logiciel libre, qui est la GFDL. Et les gens qui ont vraiment décidé de cette liberté jusqu'au bout, ils sont répertoriés sur mon écran d'ordinateur et je vais voir et j'analyse finement ce qui a été écrit et ils ont toutes leurs chances de figurer dans le prochain gauche d'auteur, parce qu'il y en a déjà un qui a été édité, qui s'appelle Une ère de liberté, dans lequel se trouve un certain nombre d'auteurs tout à fait talentueux que j'essaye là aussi par ce biais de mettre en avant. Et voilà, et c'est une part très importante d'une Libro Veritas. Ce n'est pas que y mettre les textes pour y mettre les textes et être lu, c'est aussi un moyen de promotion qui est en marge du moyen promotionnel habituel, hein. Je trouve que c'est tout à fait passionnant en tant qu'éditeur, pour moi-même ou pour d'autres éditeurs, de venir chercher les talents sur Internet.
Denis, donc toi tu es édité maintenant sur une Libro Veritas. Est-ce que tu as eu l'envie avant de te faire éditer par des circuits classiques?
J'ai eu, bien sûr, l'envie m'a effleuré plusieurs fois. Parce que lorsque l'on écrit, on n'écrit pas pour soi généralement, on écrit pour les autres. Mmh. On écrit en tout cas pour être lu. Et pour être lu, il faut trouver un moyen de diffusion. Donc automatiquement, j'ai pensé à faire des démarches auprès d'éditeurs conventionnels, enfin dits conventionnels. Je me suis rapidement rendu compte que la tâche était d'abord énorme, parce qu'il en existe des centaines dans la francophonie. Et ensuite, n'étant jamais content, vraiment content de mes textes, comme toute personne qui écrit un tant soit peu correctement, je n'ai jamais considéré mes textes comme étant achevés, donc jamais eu fait la démarche vraiment concrète de l'envoyer à 20 ou 30 éditeurs, soit à la méthode américaine en envoyant un synopsis, soit à la méthode classique en envoyant un tapuscrit, comme on dit. Et donc, maintenant, je ne suis plus en recherche d'un éditeur, forcément, puisque j'ai la Mathieu qui me fait ce plaisir, qui nous fait ce plaisir. Et donc, si un éditeur conventionnel se présentait à la porte, je ne pense pas que je lui dirais oui.
Mmh. Et donc, le bouquin dans lequel tu as été édité, ils ont été diffusés, ces livres, ils sont diffusés comment? Ils sont...
C'est le vrai drame. C'est la diffusion des livres. Mmh. C'est extrêmement difficile. À mon sens, il y a deux grandes façons de faire. Soit on est très gros, et là on imprime beaucoup de livres et on a des circuits de distribution dimensionnés pour, avec des camions qui amènent les bouquins dans les centres des FNAC, qui vont distribuer dans toutes les FNAC locales, par exemple. Ou alors on est moyen et on existe depuis un certain temps et on a des réseaux locaux ou des réseaux interconnectés qui diffusent les livres, mais dans tous les cas de figure font imprimer beaucoup et les éditeurs se trouvent tous confrontés à la même problématique. C'est le livre est super bien, faut que j'en imprime pour 3 000 euros, est-ce que ça va me rapporter ces 3 000 euros? Voilà la vraie problématique aujourd'hui de l'éditeur. C'est pas qu'il veut pas, c'est que c'est super, c'est un risque. Donc la solution elle n'existe pas vraiment, la solution miracle elle n'existe pas vraiment. Donc moi pour ma part, j'ai pris la décision d'éditer et de faire beaucoup de communication virale, c'est-à-dire sur Internet, de me faire connaître le plus possible et d'imprimer les livres en fonction des demandes et de faire un système d'apprentissage sur les ouvrages qui sont que j'ai dans mon catalogue et que j'édite de manière plus traditionnelle afin d'optimiser au maximum les coûts, les quantités de production. Voilà. Alors évidemment, c'est une méthode qui est celle-là, qui est un peu particulière et qui n'est pas forcément la plus rapide et la plus efficace en termes de couverture nationale, on va dire. Mmh. Mais elle a au moins le mérite de me permettre de commencer, de ne pas mettre en péril une Libro Veritas d'un point de vue financier. Donc ça permet de construire les bases de quelque chose d'intéressant, de sain et de rigoureux, et sur lequel on va travailler, on va évoluer. J'espère bien que les livres de Denis deviendront aussi des locomotives qui permettront de tirer vers le haut, d'augmenter les quantités imprimées, d'être de mieux en mieux vu. Enfin, c'est un cercle virtueux.
Hein, les livres de Denis, on peut acheter du Denis Nerings en librairie, le commander à la librairie à côté de chez soi.
Exactement.
Parce qu'on peut peut-être citer le nom, je ne sais pas, un ou plusieurs.
Oh, il y en a actuellement deux qui sont édités. La Licorne de Fiel a été éditée en mars 2007. Ouais. En mars 2006, en fin d'année passée, a été édité La Prophétie du Regret. Mmh. Et je vous annonce, c'est une avant-première, je vous annonce la sortie dans les tout prochains jours de La Licorne d'Émeraude, puisque en fait La Licorne de Fiel est le premier tome d'une quadrilogie. Mmh. Et donc le second tome sort maintenant dans quelques jours. C'est un scoop.
Voilà. D'accord. Donc voilà. L'auteur donne son propre scoop. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est excellent. Mais voilà. Et là encore, on le trouvera dans toutes les bonnes crèmeries habituelles. C'est parce qu'on peut. Il y a quand même des réseaux professionnels de base de données sur lesquels on vient s'inscrire et qui permettent aux petits libraires, voire aux plus gros, de trouver le livre et de me le commander directement. Et effectivement, la phase d'après, c'est d'inonder tout le marché des livres Libro Veritas. Hein. Il n'y a pas de souci et de faire de Denis un auteur lu. Parce que c'est ça qui est surtout important, je crois, c'est d'être lu par le plus grand nombre. Voilà. Mais comme toujours, quand on débute, avant de courir, il faut marcher. Puis avant de marcher, il faut avoir peut-être été un peu à quatre pattes. Et avant d'être à quatre pattes, il faut être dans les bras de ses parents. Donc, une Libro Veritas fera les choses dans le bon ordre. Et on va essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout ça. Hein. Et faire les choses tranquillement, calmement, mais de manière régulière pour bâtir sur la durée. Je pense qu'il faut le faire tranquillement. Gentiment, avec le maximum de rigueur, avec le plus d'humilité possible, et je pense que c'est comme ça qu'on inscrira dans la durée. Et puis moi-même je vais apprendre petit à petit, puisque finalement je fais quelque chose qui se fait pas, donc j'ai pas envie d'aller trop vite, j'ai envie de me casser la gueule, quoi. C'est l'idée, hein.
Est-ce que Denis, tu peux, puisqu'on en est au moment de la promotion, nous parler un peu de... Enfin, si tu veux, si tu as des choses à dire sur ce que tu as écrit...
Oh, mais dès que j'ai plein de choses à dire, je vais remplir tout le créneau horaire. En fait, j'écris beaucoup de... Beaucoup, j'ai une grosse production, parce que j'ai dit tantôt que j'avais beaucoup d'imagination. Mmh. Et pour éviter les maux de tête, j'écris beaucoup. Donc j'ai en projet la quadrilogie de la licorne, qui est sont des thrillers ésotériques, qui est en fait une retranscription du mythe de Merlin, du mythe de la folie de Merlin, en espérant que dans la dernière licorne, le mythe soit résolu, enfin la folie de Merlin soit résolue, bien sûr, ce qui n'est pas sûr.
Bon, ben, c'est
mystère. Ouais. Et puis j'ai beaucoup d'autres romans en cours pour le moment. Il faut savoir qu'il me faut à peu près 2 ans pour, non pas pour écrire le roman, mais pour l'affiner, le mettre en selle, si je puis dire. J'écris très, très vite, il me faut 3 semaines pour écrire 200 pages, mais il faut 2 ans pour le corriger. C'est-à-dire le réécrire, le remettre à jour, réécrire, voir la syntaxe, la concordance des temps, les corrections orthographiques, syntaxiales, grammaire et tout. Et je tiens à remercier les personnes tout à fait bénévoles qui corrigent pour moi. Merci Fabienne de toutes tes corrections, merci Sylvie, merci Catherine et merci Marc de toute l'aide que vous m'apportez dans mes écrits. C'est extrêmement important de pouvoir donner un travail, un produit, si on peut dire, bien terminé, bien fait, bien achevé, comme un artisan le fait dans sa boutique. C'est extrêmement important pour moi. Et donc... finalement, en visitant mon site, vous aurez un aperçu complet de tous les thrillers que j'écris actuellement.
D'accord. Donc, parce qu'on a parlé de comment fonctionne Libro Veritas, du matériel, etc. Mais derrière, il y a aussi un forum et une communauté. Donc là, Denis, tu peux peut-être nous en parler.
Alors, il existe bien évidemment sur Libro Veritas un forum tout à fait bien fourni, dans lequel on peut libérer un noyau d'une vingtaine de personnes, je dirais entre une quinzaine et une vingtaine de personnes, qui se connaissent beaucoup plus que par le forum. J'ai des contacts avec pas mal d'auteurs, collègues, qui sont sur le forum, et on se contacte en dehors de ce forum aussi. Je pense par exemple à un Zébulon moustachu qui habite un château dans la cité phocéenne, que j'embrasse très très fort, qui se reconnaîtra. Je pense à bien d'autres, je ne peux pas tous les citer. Excusez-moi mes amis, mes collègues, mais il se crée dans une communauté d'échange et de partage qui rentre tout à fait dans le cadre des licences libres et du partage de l'art.
Et donc du coup, c'est quelque chose qui fait monter le niveau et qui donne envie d'écrire et qui fait monter le niveau.
C'est très motivant. Oui. C'est une synergie très motivante, une symbiose très motivante, puisque l'émission s'appelle Symbiose, justement.
C'est pas complètement par hasard,
bien sûr. Donc cette symbiose entre plusieurs auteurs, plusieurs acteurs de la vie, finalement, qui mettent par écrit leurs idées, leurs fantasmes, leurs rêves, leurs idéaux, eh bien, se retrouvent en dehors de cette petite communauté d'ILV. Et c'est très important de pouvoir... comprendre qu'un forum libre, un forum littéraire puisse aboutir sur des connaissances, des participations tout à fait autres qui n'ont rien à voir avec la littérature. Je peux parler avec Christian de mon chien, je peux parler avec Nathalie d'autre chose, qui n'ont rien à voir avec la littérature. Et je pense que là, c'est vraiment une ouverture sur le monde que nous apporte le site Libro Veritas.
D'accord. C'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve dans pas mal, sur pas mal de forums sur Internet. C'est une des forces de cet outil. Mais aujourd'hui, est-ce que tu identifierais, par rapport à Libro Veritas, à la littérature, etc., est-ce que tu identifierais des besoins ou des choses comme ça ? On parlait tout à l'heure des éditeurs qui pourraient aller piocher des textes, etc. Est-ce que, par exemple, enfin moi c'est quelque chose qui m'en parlait un peu tout à l'heure, mais qui me semble important, c'est faire du tri, parce que sur une Libro Veritas, il y a nécessairement du mauvais et du bon. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer
C'est un vrai problème. Enfin, c'est un problème dans le sens où quelle est la solution la plus intéressante. Tu disais, il y a du bon et du mauvais. Moi, je dirais pas ça sous ces termes-là. Je dirais, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide et d'autres qui ont moins besoin qu'on les aide. Et je crois que c'est là-dessus, à mon sens, qu'il faut travailler, parce que je ne sais pas aujourd'hui, j'ai pas la science infuse, je prétends pas l'avoir, je ne sais pas aujourd'hui comment on peut faire sur un site web comme In Libro Veritas, comment on fait pour rehausser le niveau global, comment on fait pour justement trouver les bons au milieu de ceux qui le sont moins. Je pense que tous les auteurs qui viennent sur In Libro Veritas ont tous une démarche d'honnêteté intellectuelle face à la culture et à l'œuvre. J'en suis convaincu. Malheureusement, tout le monde n'a pas les capacités de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Tout le monde n'a pas les capacités d'écrire tout de suite, bien comme il faut, en se relisant. Et Denis disait quelque chose d'extrêmement essentiel tout à l'heure. Il dit, moi j'écris en 2 semaines, je t'ai fait 200 pages, et il faut 2 ans pour montrer aux gens pour prétendre que ces 200 pages puvent être lues par le plus grand nombre. Et à mon avis, le secret, il est là. Ce qu'Internet, aujourd'hui, a un petit peu zappé, c'est ces 2 années de correction. Sur Internet, on écrit tout de suite, on le met, et il faut faire vite parce que ça s'accélère, parce que ça va vite, etc. Je pense que la littérature, comme beaucoup d'art, c'est quelque chose qui doit mûrir avec le temps. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs écrivent sûrement très bien, mais on le voit pas parce qu'ils ont écrit trop vite, ou ils ont mis tout de suite ce qu'ils avaient dans la tête, ou même ils écrivent directement dans l'interface d'écriture. On le lit très vite, on voit, c'est bourré de fautes, il y a des coquilles, il manque des mots, etc. C'est surtout ça, à mon avis, qui va falloir permettre, c'est que tout le monde ait la possibilité d'être aidé. Et Denis le disait, il y a une vingtaine de personnes, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres groupes, qui s'aident entre eux. Il y a des forums qui sont nés à côté d'In Libro Veritas, qui aident les gens à produire une œuvre de qualité, au moins sur la forme. Je ne juge pas le fond, mais au moins sur la forme, d'une qualité suffisante pour être considérée comme une œuvre littéraire. Maintenant, le fond, chacun est libre de juger. Moi, je peux trouver quelque chose de très bon et toi de très mauvais. Et inversement, donc c'est qui on est finalement pour juger. Moi, c'est tellement subjectif, c'est tellement difficile, je ne sais pas comment on pourrait faire. Mais au moins, que les formes soient bonnes. Et je pense qu'il y a des gens, en toute honnêteté, qui le font avec tout leur cœur, toute leur passion. Et je les en remercie. Moi, j'adore ça. J'adore lire. Je passe des heures à lire des choses. Mais il y a parfois, ouais, effectivement, c'est pas bon parce que la forme n'est pas bonne, parce que c'est pas bien mis en page. On sent la précipitation. On sent l'envie, tu vois, de mettre sur le site web et de... on va enfin me lire. Non, on te lira d'autant plus que tu auras mis de l'effort à faire quelque chose de bien. Moi, je pense qu'on peut qualifier l'œuvre d'art à la quantité de travail. Peu importe quel type d'œuvre. À mon avis, plus on y met du travail, plus on y met de l'énergie sur se corriger, se re-recorriger, surtout dans la littérature, je pense que plus on aura cette volonté-là de faire quelque chose de bien pour le lecteur, plus le lecteur le sentira et plus il sera admiratif par rapport à l'œuvre et attendra le nouvel écrit de l'auteur. Et l'auteur, forcément, sera bien noté, sera plus lu, et il surnagera au niveau des statistiques automatiquement sur le forum. Et je pense que la clé de cela, elle tient dans les auteurs eux-mêmes. Elle ne tient pas à moi, si ce n'est que je vais en piocher ceux qui ont fait cet effort-là. Mais pour être vu, pour être lu, je pense qu'il faut... Il faut bien faire les choses, il faut travailler. Et moi, je comprends qu'il y a des auteurs qui ont besoin d'aller vite, mais je comprends aussi qu'il faille prendre du temps. Et je profite de l'émission pour leur dire, prenez votre temps, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci, vous avez tout le temps que vous voulez devant vous pour pouvoir écrire, prendre, à nouveau, je parle encore du temps, mais prendre son temps, poser les questions aux autres. On peut publier en privé sur In Libro Veritas. C'est donner l'adresse qu'il y a quelques copains ou quelques amis pour qu'ils viennent lire et aider à la correction. Et après, mettre au public une œuvre la plus propre possible. Et les lecteurs sont extrêmement sensibles à ça. On est tous sensibles à ça. Et quand on fera... Moi le premier, on doit tous faire l'effort ensemble, collectivement, en s'aidant les uns les autres pour tirer vers le haut, et on sera vu. Et plus on sera vu, plus on sera lu. Et finalement, c'est tout ce qu'on cherche sur In Libro, quoi.
Toi, Denis, qu'est-ce que tu as eu comme expérience, comme reconnaissance de ton travail, ton écriture par In Libro Veritas ? Tu m'as parlé de... Notamment, je pense à ce que tu m'as raconté sur l'illustration...
Une première reconnaissance, c'est en fait une application de la licence Art Libre que j'avais choisie pour un recueil de partitions. Et je suis tombé un jour sur un site internet d'un jeune graphiste parisien qui s'appelle Valentin Adam, je peux le citer, qui a illustré une de mes nouvelles. toujours sous licence d'art libre. C'est-à-dire qu'il a pu, grâce à cette licence, prendre un de mes textes, sans me demander mon avis, puisque c'est dans l'accord de la licence, le mettre, l'illustrer pour sa propre production à lui, pour son propre site, et le remettre sous licence d'art libre également. Mmh. Et je trouve que c'est une reconnaissance extraordinaire pour un écrivain de voir les quelques mots qu'il a écrits être illustrés par un parfait inconnu, qui maintenant je le connais un petit peu, et qui sont là comme ça, qui servent, les mots grandissent et les mots fleurissent et les couleurs viennent s'ajouter aux couleurs. Et je trouve que ça, c'est une reconnaissance extraordinaire. Sur le site d'Inlibro Veritas, j'ai bien sûr des commentaires sur les textes que je place en ligne. Et ce sont des commentaires qui sont généralement très, 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 très fondés, très fouillis, très cherchés, que j'apprécie beaucoup. C'est une reconnaissance aussi d'être, pouvoir être lu, de voir le compteur de lecteurs qui s'incrémente tous les jours. Et pour moi, c'est une très grande reconnaissance. Mmh. Elle est là.
Ouais, ah, ouais, enfin, voilà, enfin, tout est dit, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Enfin, pour être tout à fait honnête, finalement, moi, je suis rien, enfin, par rapport à, quand on entend Denis qui dit, ben, moi, je suis lu, il y a un illustrateur qui m'a illustré, puis j'ai d'autres exemples d'auteurs à qui c'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus, quoi? Moi, je m'efface par rapport à ça et je dis, ouais. Voilà, tout est dit, quoi. Mmh. C'est le plus important, il est là, quoi.
Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à monter un truc pareil?
Deux choses. Déjà, il faut être un peu branque, à mon avis. C'est déjà, à mon avis, il faut être un petit peu fou, parce que je suis parti un peu à l'aventure. Non, plus sérieusement, l'idée m'est venue de ce simple constat. J'avais écrit sur un forum, il y a pas mal d'années maintenant, tu vois, une petite nouvelle, tous les jours, j'écrivais l'équivalent d'un A4, qui racontait l'histoire d'un robot et d'un logiciel de peer-to-peer, etc. Ceux qui me connaissent reconnaîtront chacun son clin d'œil. Et j'utilisais les pseudonymes du forum, des gens du forum les plus actifs pour agrémenter l'histoire. Ils étaient les héros de cette histoire, quoi. Donc c'était plutôt sympa, ça a duré quelques mois comme ça, c'était rigolo. Et puis l'histoire se termine et on m'envoie un mail, plusieurs, qui me dit « Ouais, l'histoire est super intéressante, c'est vachement sympa. » Enfin bon, comme ça, une espèce d'enthousiasme. Je dis « Tiens, c'est intéressant. » Il dit « Où est-ce que je peux acheter le livre ?» Je dis « Ben, le livre, on peut l'acheter nulle part. Je l'ai écrit. La seule chose que je peux te proposer, c'est éventuellement un PDF. Puis tu l'imprimes, je sais pas quoi. » Il dit « Ouais, d'accord, bon, on voit toujours le PDF. » Bon. Puis tu sais, ça mûrit dans ma tête. Je dis « Putain, c'est 6 mois, donc je suis pas grand-chose. J'ai intéresser quelques personnes en ayant écrit sur Internet, ça va être sûrement le cas de plein d'autres. Et si des gens ont bien voulu acheter mon livre, ça sera le cas pour les autres. Et là, la réflexion a commencé à naître. Je me suis dit, il faut créer un site qui se concentrera autour de ce concept-là, tout simplement. Donc, les licences commençaient un petit peu à naître et autorisaient la mise à disposition du public de manière juridiquement simple et stable et sécurisante. Restait le problème de l'impression à la demande à résoudre. Donc, avec le numérique, ça a pu se résoudre. Et les circonstances de la vie ont fait que j'ai pu me lancer dans l'aventure. Et sur un grand coup de tête, je me suis levé un matin, je dis, c'est pas possible, faut que j'y aille. Donc, j'ai dit, je vais créer une Libro Veritas. Et au détour d'un forum, alors que je cherchais un développeur, il y a Thomas qui était là, qui m'a dit ben, « Moi, je cherche un projet intéressant à développer. » Je suis rentré en contact avec lui de manière tout à fait fortuite et par hasard. Et on s'est vu, on a parlé, et il a dit « Banco ». Et on part à l'aventure ensemble et je ne le remercierai jamais assez. Sans lui, Libro Veritas n'aurait jamais vu le jour. Et voilà, et on est parti à l'aventure la plus totale. Mmh. On a créé le site, on avait absolument... rien vraiment prévu. J'ai rencontré l'imprimeur, on a mis en place le système, etc. Mais moi, ma volonté profonde, c'était de mettre à disposition des gens un outil qui permettrait d'écrire le plus simplement possible, au lecteur de lire le plus facilement possible, et au milieu de tout ça, un système industriel qui permettrait de faire ce fameux livre unique à la carte. Mmh. Voilà. Et c'est de toi, c'est le mélange de tout ça.
Tu n'avais aucune connaissance du monde de l'édition?
Aucune. Aucune. Et j'ai appris sur le tas. J'ai eu la chance de rencontrer des gens tout à fait sympathiques et tout à fait admirables pour certains qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué, qui m'ont accompagné, qui ont bien voulu prendre les risques industriels avec moi, qui ont bien voulu m'aider à comprendre le monde de l'édition. Ne serait-ce qu'un libraire près de chez moi qui m'a dit bah, « je vais te donner 2-3 tuyaux ». Et voilà, puis petit à petit, on se construit, puis voilà, pas à pas, on avance. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai pas forcément de formation autour de ça. J'ai eu une idée, j'ai eu une volonté, un rêve depuis longtemps. J'ai dit, faut pas mourir comme ça. Hein. Et j'ai dit, je me lance. Et je suis parti. Et je pensais même pas que ça serait le que je serais là un jour en train d'en parler. Quoi. C'est assez incroyable. Ouais.
Aujourd'hui, tu vois, la dimension prise par Inibro Veritas, ça te satisfait?
Tous les jours, je me lève en me disant, c'est pas possible, je suis en train de rêver. C'est pas possible. Moi, je trouve pas les mots, quoi. C'est bien la première fois, parce que d'habitude, je suis assez bavard. J'ai pas les mots pour dire combien je suis content. J'ai pas les mots pour dire combien je suis heureux d'avoir pu trouver les moyens d'avoir cette version 2 du site. J'ai pas les mots pour remercier tous les auteurs qui viennent écrire, tous les lecteurs qui viennent lire. Voilà, je suis super content. Et ça me suffit, comme Denis est très content, et je le comprends, d'être lu et d'être reconnu parce que des gens ont utilisé son œuvre pour agrémenter les dessins. Ben moi, je suis heureux de voir tous les jours des gens s'inscrire, des gens venir écrire et réécrire encore des nouvelles œuvres et de libérer leurs œuvres et de partager, d'échanger, de rencontrer des auteurs, pouvoir... voilà, et moi, ma satisfaction d'avant tout, elle est là parce que... voilà, et puis le libre, quoi.
Ok.
La culture libre.
Très bien. On va écouter un petit morceau et on se retrouvera après.
Thank you.
Symbiose de retour. Aujourd'hui, nous parlons d'In Libro Veritas, donc le site web d'édition de littérature libre, couplé à de l'édition papier, de l'impression. Ça, c'est, quelque, c'est un aspect des choses qui, moi, m'intéresse énormément et qui m'a motivé à faire cette émission dessus. C'est qu'on a l'habitude dans le libre d'avoir de lier tout ce qui est licence, logiciel libre, etc. Aux nouvelles technologies. Et donc on voit ça dans la musique parce qu'on a les lecteurs MP3, etc. Et là on a un domaine où en fait on a quelque chose de très, très traditionnel et de très physique qui est un livre papier. Et donc je trouve que c'est un mélange très intéressant à la fois de licence libre et de principes assez novateurs. Et de quelque chose qui est très traditionnel. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est possible, quel est le mécanisme qui fait que ça fonctionne?
Alors, la bonne question, c'est quel est finalement l'avenir du libre et du livre, pardon. Lapsus révélateur, hein? Lapsus révélateur, mais c'est exactement ça. Quoi. Mais j'ai cherché longtemps, il doit y avoir un jeu de mots avec livre et libre. Quel est l'avenir du livre? Et je pense, à mon sens, que le livre disparaîtra jamais en tant qu'objet. Pourquoi ? Parce que il est la partie. L'être humain est kinesthésiste, il a besoin de toucher. Et c'est inconcevable de lire quelque chose de 500 pages devant un écran comme ça assis, alors qu'on a un tel affectif avec l'objet papier, avec l'objet qui fait ce bruit, qui a cette odeur, qui a toute cette émotion, toute cette ancestralité, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est possible. Après, avoir dématérialisé le livre, les gens ont envie de le revoir matérialisé, de voir leur œuvre dans un vrai livre papier, sur une bibliothèque, d'avoir le livre entre les mains, dans le métro, dans le bus, dans l'avion, dans le train, que sais-je, ou même dans le lit ou dans les toilettes, on lit partout. Et de pouvoir y mettre un marque-page, de corner la page,
C'est quand même beaucoup plus confortable de lire.
Voilà, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors évidemment, il y a des tas de parties d'impression papier sûrement qui vont disparaître, comme les journaux quotidiens, qu'on lit en quelques minutes. Bon, ça sera sûrement sur des e-books ou du papier numérique, mais je pense que l'affectivité humaine auprès du livre est fait que ça fonctionne. Je crois que c'est ça que les gens aiment et que j'aime aussi. J'aime le livre, il n'y a rien à faire. J'aime l'objet. Et par exemple, les éditeurs, quand ils doivent mettre au pilon des livres, parce qu'il faut le pilonner, parce que le stock coûte cher, c'est un arrache-cœur, c'est un crève-cœur pour les éditeurs. Mettre au pilon, c'est détruire le livre. Et il y a 50, 60 ans, 70 ans, on avait brûlé des livres au nom d'une certaine idéologie. Quand on brûle les livres, quand on détruit les livres, c'est la perte de quelque chose. C'est fondamentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est pour ça qu'In Libro Veritas, lui, il ne crée le livre que quand il y en a besoin, que quand il y a la nécessité, quand il y a l'envie, quand il y a le besoin. Et on détruira. L'objectif, c'est de plus le détruire. Et en plus de ça, on fera des économies de papier, peut-être d'arbres sur la planète. Moi, j'en sais rien, mais à mon maigre niveau, au moins, j'imprime que le nombre de livres dont on a besoin. Donc, c'est aussi quelque part un peu ce côté revendicatif. Tu vois, ce qui fait aussi que ça fonctionne. Je pense que c'est
pour la durée du livre également. Enfin, on sait que sur des bouquins qui sont pas de très grands classiques, etc., au bout de quelques années, après l'édition, pour les retrouver et les acheter, c'est extrêmement difficile.
Ouais.
En général, c'est épuisé.
Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle communément, je ne sais pas si le terme est très élégant, la zone grise. C'est-à-dire, c'est des livres qui ont peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, mais dont l'auteur est pas mort, tant mieux pour lui, ou qui est pas mort depuis plus de 70 ans, et auquel cas on se retrouve avec, justement, avec des livres qu'on va peut-être mettre au pilon, et on se retrouve avec aujourd'hui probablement des millions de titres qui sont dans la zone grise, dont les éditeurs ont peut-être que 50 exemplaires et qui ne peuvent plus vendre dans le circuit traditionnel parce que c'est économiquement une aberration. Donc, à part mettre peut-être sur leur site, mais comment se faire connaître? Enfin voilà. Donc, on a peut-être avec In Libro Veritas un début de solution par rapport à ce type d'œuvre. C'est, me semble-t-il, aussi peut-être le début d'idées que d'autres auront pour. De futures idées dans l'édition tout court.
Tu as parlé tout à l'heure très rapidement du papier électronique.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux en parler rapidement parce que c'est encore très expérimental ces choses-là.
Le papier électronique, t'as deux visions. Si on prend rien que l'e-book, ça va à mon avis d'échec en échec depuis pas mal d'années parce que c'est quelque chose qui était lourd. C'est un gros appareil, c'est pas super simple à lire, c'est pas confortable. Dans le métro, t'as l'impression d'être avec un portable sur les genoux, c'est pas génial. C'est vrai qu'il y a eu d'énormes progrès, il y a vraiment du papier, c'est une feuille de papier, on écrit avec un stylet, c'est vraiment génial. Donc ça, on est dans l'écriture de prise de notes, etc. Je pense que c'est l'avenir et qu'on utilisera tout ça dans pas longtemps, il n'y a absolument aucun problème. Pour la lecture, encore une fois, ça dépend du contenu. Si c'est juste de l'informatif, des news, un truc que tu lis très vite, un hebdomadaire, un quotidien, je pense que ce type de papier va être très utile. On fera des économies, on passera à côté d'une borne qui chargera le contenu directement sur ton livre papier. Tu pourras lire ça dans le transport en commun ou autre. Puis tu pourras faire du copier-coller, enfin si on a encore le droit, de copier, de coller et faire ça, c'est encore autre chose. Je pense que pour ça, il n'y a pas de doute, l'avenir il est là. Maintenant, pour la littérature, justement, pour les beaux livres, pour les livres d'art, pour les livres d'auteur, etc., je pense que le livre ne disparaîtra jamais. C'est un bel objet aussi, le livre. Sur une bibliothèque, c'est beau. Entre les mains, c'est beau. Puis pour un enfant, c'est tactile. Puis on peut corner les pages, même si c'est pas bien. On peut écrire dessus, mettre des annotations. C'est un livre, c'est un papier, c'est un objet physique. C'est l'informatique. Le livre, il est ancestral. Il est là depuis tellement longtemps qui fait partie de notre historique, de notre patrimoine. Et c'est important. Et je pense que l'être humain va garder ça encore très longtemps. Donc, tu vois, mais on va avoir deux grosses familles d'éditions comme ça, à mon avis.
D'accord.
Ça n'engage que moi.
Oui. Non, parce que, enfin, je sais que j'ai lu des trucs là récemment là-dessus, sur c'est une feuille de plastique qui se teinte dans la masse. Donc, c'est pas un truc rétro-éclairé comme les écrans qu'on peut connaître. Donc, il n'y a pas ce côté ni de fréquence de rafraîchissement. C'est ce qui fatigue les yeux sur les écrans.
Oui, tout à fait. Techniquement, c'est vachement bien.
Techniquement, c'est impressionnant. Ouais. Et du point de vue du livre, c'est intéressant aussi parce que qui dit format informatique dit DRM. On en a parlé lors de la dernière émission. Donc, par ce biais-là, il y a des velléités de contrôler et de diffuser, de contrôler les lectures et d'associer à une personne les droits de lire ou de ne pas lire et de diffuser des textes.
Ça, on va pas revenir sur nos atteintes à notre vie privée. Je précise instantanément, puisque tu me tends la perche, que les PDF générés quand on les télécharge sur Libro Veritas sont sans DRM. Ça, c'est hors de question. Il n'y a pas de petit logiciel espion qui vient de se loger quelque part. Non, non. Tu fais bien de dire ça, effectivement. Mais bon, c'est pas l'objet de l'émission. Il n'y a pas de ça sur In Libro Veritas. La fin de la parenthèse.
Ok. Et toi, en te lançant très naïvement dans le monde de l'édition, quel regard tu peux avoir sur le monde de l'édition et quel contre-modèle ça peut constituer pour toi?
Alors, moi, ça m'a permis effectivement d'avoir plusieurs... plusieurs retours d'expérience qui, tant que j'étais pas éditeur, si tant est que j'en suis un, j'avais jamais pu voir. Premier point, c'est sur les petits éditeurs, les tout petits éditeurs ou les éditeurs associatifs. Je vois à quel point c'est difficile pour eux d'être connus, reconnus et de faire en sorte que leurs auteurs soient lus. Ça, c'est le premier point. Et vraiment, je tire mon chapeau à tous ces petits éditeurs qui font vraiment des efforts colossaux pour surnager, parce que tellement c'est difficile, quoi. Ça, je pensais pas que c'était dur à ce point-là, parce que l'imprimerie, ça coûte cher, parce que, bon, tout un tas de raisons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus par rapport peut-être aux gros éditeurs, qui, pour des raisons économiques, vont faire imprimer dans les pays de l'Est ou plus loin des livres à 10 000 exemplaires parce que c'est la quantité économique qui va bien pour pouvoir être vendu à 10 euros dans les magasins, et qui instantanément, à peine les livres arrivés descendus du camion, voulaient mettre ces livres au pilon pour ne pas payer les auteurs, et parce qu'ils savent très bien que de toute façon, ils n'en vendront jamais plus de 5 000. Mais pour pouvoir arriver à des quantités économiques qui vont bien, ils vont en faire imprimer 10 000. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné dans l'édition. Chez les gros, il se passe ça. Bon, c'est...
On va parler aussi de manœuvres financières qui consistaient à vendre des livres aux librairies.
Et à se les racheter.
Les racheter plus tard, ce qui permettait de... En gros, des bouquins, on en met des tas. Ils se vendent pas, on les rachète ensuite, et entre-temps, on a fait la trésorerie, et
exactement,
on a fait tourner tout ça.
Non, mais il y a des tas de choses qui peuvent être plus ou moins compréhensibles ou explicables, effectivement, autour de ça. Il y a la loi Lang qui a, heureusement d'ailleurs, qui a sauvé, à mon avis, les libraires avec le prix unique du livre. Mais bon, il y a quelque chose qui m'échappe aussi quand on voit certains vendeurs de livres qui, à peine le livre sorti, s'autorisent à expliquer gentiment qu'ils le vendent 50% moins cher, alors que les libraires n'ont pas le droit de le faire. Mais eux, ils ne sont pas éditeurs, ils ne sont pas libraires, ils ne sont rien, ils sont juste un club de lecture, ce qui les autorise à vendre le bouquin 50% moins cher. Bon, d'accord. Il y a effectivement des éditeurs qui vont s'auto-acheter les livres, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a certainement des raisons économiques, mais... Est-ce que c'est pas lié au format des contrats, par exemple, avec les éditeurs, ou parce que le système est comme ça, et parce que le monde de l'édition est un petit monde qui existe depuis longtemps? J'en sais rien, ils ont certainement de bonnes raisons d'en être arrivés là. Maintenant, le monde a évolué, les systèmes d'impression ont évolué, les licences ont évolué, la façon de voir l'édition a évolué, donc je pense que tout ça doit changer. De même que doit sûrement évoluer la notion de domaine public. Aujourd'hui, le domaine public, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Bon. Aujourd'hui, on écrit... moi, je suis auteur, j'écris un livre, un best-seller à l'âge de 20 ans, puis j'ai la bonne idée de mourir à l'âge de 90 ans, soit 70 ans après la naissance de cette œuvre. Donc, on va attendre 70 ans plus 70 ans pour voir l'œuvre tomber dans le domaine public, c'est-à-dire 140 ans. Donc, pendant 140 ans, soit mes héritiers... vont pouvoir faire perdurer l'œuvre, bon, d'accord, soit le truc va complètement mourir et on n'en entendra plus jamais parler. Alors que si j'écris cette même œuvre avec le même succès, admettons, à l'âge de 70 ans et que je meurs quelques mois après, bah, l'œuvre va tomber dans le domaine public, enfin, simplement 70 ans après. On a un truc qui est, à mon sens, qui est quand même vraiment curieux. J'estimerais plus normal qu'une œuvre tombasse dans le domaine public, et encore on dit tomber, mais je préférerais dire s'élever. Parce qu'à mon avis, on s'élève dans le domaine public, mais on n'y tombe pas. C'est pas un trou. C'est plutôt, au contraire, une consécration ultime. Parce que connaître des œuvres du domaine public, les connaître, c'est faire montre d'une immense qualité de cette œuvre-là. Parce que des œuvres du domaine public, à mon avis, il y en a des centaines de milliers, voire des millions, et personne ne les connaît, parce que plus personne la connaît du tout. Mmh. Et voilà. Donc, ça aussi, le domaine public, j'ai appris ça. Je trouve ça incroyable. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt dire 50 ans après la naissance de l'œuvre. Voilà. Et c'est tout. Et je meurs après que l'œuvre soit dans le domaine public. Et ben, c'est même plutôt une consécration énorme, quoi. Et voilà. Mais tout ça, ça date de très loin. C'est...
Le délai pour le domaine public, ouais, a été rallongé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 50 ans, on l'a passé à 70.
Super. Puis pourquoi pas, on peut aussi passer à 150 ans ou 1000 ans. Je veux dire, ça a plus... Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a plus vraiment de sens. Mais... Ça arrange certainement certaines sociétés américaines qui éditent un petit personnage en forme de souris avec des grandes oreilles.
Ça rend service à pas mal de gens qui possèdent les droits.
Ouais, voilà. Maintenant, à un moment donné, faut quand même que ça s'arrête. Mmh. Et enfin, il y a quelque chose qu'il faut revoir dans le domaine de la littérature et des arts en général. Faut pas parler que de la littérature, mais des arts. Et voilà, c'est un petit coup de gueule en passant, quoi.
D'accord. Moi, cette affaire-là de domaine public et ce délai me semble vraiment symptomatique de cette tendance qu'il y a par rapport au libre, enfin un peu le contre-exemple du libre, le contre-mouvement, qui va être au contraire d'essayer de tout verrouiller, de bloquer les choses, que rien ne bouge pendant...
Jamais,
et que les personnes qui ont la main dessus, en tirent finalement du profit. On l'a déjà dit, du profit pour pas, il faut bien vivre.
Bah ouais, le problème n'est pas là.
Mais ce qui est intéressant, enfin moi ce que je trouvais intéressant et le fait d'avoir Denis ici, c'est de montrer que bah, écrire c'est pas simplement gagner des sous, c'est rarement le cas puisque finalement...
Il n'y a pas tant d'auteurs que ça qui vivent de l'écriture en
très
France.
Peu.
Maintenant il faut compter à peu près, il faut vendre entre 3 et 5 000 livres par mois, tous les mois, tous les ans, pour pouvoir en vivre.
D'accord.
C'est pas beaucoup, hein. Non. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui en vivent vraiment.
Non, mais puis... Puis de toute, Denis l'a très bien dit tout à l'heure, ce qui compte d'abord c'est d'être lu, et au-dessus de tout ça, ce qui compte c'est d'être libre, à mon avis. Et les auteurs, ils ont envie et d'être lus, ce qui est normal, ils ont envie de vendre leurs bouquins, c'est normal, ils ont envie de gagner un petit peu de sous dessus, et j'espère bien, mais en plus de tout ça maintenant, c'est de conserver cette liberté, de ne plus être pris dans une cage dorée, construite par les éditeurs. Moi, je vais donner un exemple tout bête. Je trouverais ça absolument... Pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le droit d'éditer un auteur de talent qui est chez une autre maison d'édition, après tout? Pourquoi j'aurais pas le droit? Pourquoi est-ce que l'auteur, me trouvant sympa, dit « Tiens, bah, je vais écrire une petite nouvelle pour toi. » Pourquoi est-ce qu'il doit tout mettre exclusivement chez un seul éditeur? Moi, ça me poserait absolument aucun souci qu'un autre éditeur, même un petit, vienne me voir en disant, bah voilà, j'ai un auteur que j'aime beaucoup chez toi, est-ce que tu es d'accord pour qu'il vienne écrire une nouvelle, pas parce qu'il a déjà écrit chez toi? Pas de problème, vas-y. Puis moi, j'ai peut-être regardé cet éditeur-là en disant, dis donc, ça m'intéresse qu'il a écrit cet auteur. Puis moi, je suis un petit peu plus spécialisé, par exemple, dans les bouquins du logiciel libre, puisque Libro Veritas est l'éditeur des Framabooks de Framasoft. Eh ben, on peut faire un échange et tout le monde y serait gagnant. Pourquoi mettre tout le monde dans une prison? On peut libérer l'œuvre, on peut libérer peut-être les éditeurs,